Tout pour investir, le coach.
Je ne sais pas si vous allez sortir de cette émission avec un meilleur moral, mais vous serez au moins bien informé financièrement. Rebonjour Alexandre.
Oh, bonjour Lorraine.
On va parler de capital investissement français. Vous nous avez fait la gentillesse de sonder une partie de votre communauté. On a quelques conclusions sur l'état d'esprit des investisseurs ou des wannabes investisseurs en non-coté. La primeur d'une sorte d'étude, de petit sondage, si je peux dire. Racontez-nous ce que vous avez fait avec l'équipe Tudigo.
On a interrogé 250 personnes sur... Alors, on a posé trois questions. La première qui était, dans l'hypothèse d'un changement de majorité suite aux élections législatives, quel programme vous semblait le plus défavorable à l'investissement de non-coté ? La deuxième qui était, est-ce que l'incertitude politique va-t-elle impacter votre stratégie d'investissement ? Et la troisième, quels sont selon vous les secteurs qui seraient le plus à risque ou plutôt les plus résilients ? L'idée, c'était quoi ? C'était de voir effectivement, au-delà de ce que pensent les marchés, les analystes, les professionnels de l'investissement, qu'est-ce que le particulier voit ? Comment est-ce qu'il pense ? Avec tous les biais que peut avoir l'investisseur épargnant de débutant à aguerri.
La première question, c'est l'hypothèse d'un changement de majorité avec le RN d'un côté, le NFP de l'autre. Et la conclusion, c'est quoi ?
La conclusion, c'est que les trois quarts des sondés considèrent que ce changement de majorité, il n'est pas neutre. Je dis qu'ils considèrent qu'il n'est pas neutre, mais en fait, ils ne sont pas unanimes sur la pire des hypothèses. Si on reprend ce que Nicolas tout à l'heure disait, oui, en effet, je pense que l'économie est la grande perdante de ces élections. Tous pensent qu'effectivement, on va avoir un problème. Ils sont 61% à penser que le plus nuisible économiquement reste le nouveau Front Populaire, contre 39% pour le Rassemblement National.
J'ai fait un verbatim de quelques-unes des réactions que vous avez reçues autour de ce sondage.
On a eu beaucoup de verbatim, on a eu une bonne centaine de verbatim.
Les extrêmes et l'incertitude ne sont pas bons pour l'investissement. Épargner plus en raison de l'incertitude. Quel que soit le scénario, je pense qu'il vaut mieux éviter d'investir en France. Et je ne parle pas du cas le plus catastrophique avec le Front Populaire. Ça ne change pas grand-chose, car comme d'habitude, rien de concret ne sera appliqué, surtout pour le RN, qui ne semble pas au point sur son programme économique. Bon, dans toutes ces réactions, si on analyse un petit peu de manière financière et rationnelle, il y a en sous-jacent des biais. Quels sont les biais qui animent les réponses de vos sondés là ?
Je veux dire, il y a des biais, et puis je vais revenir sur quand même le temps long de l'investissement et qui est encore plus valable en mon côté. Et ça tombe bien cette semaine, si on veut être optimiste, il y a quand même le dernier résultat de l'étude France Invest Ernst & Young qui sort tous les ans sur la performance actualisée 10 ans du capital investissement. Et qu'est-ce qu'on apprend ? C'est qu'elle est toujours très au-dessus des autres classes d'actifs. Le CAC 40 a très bien performé l'année dernière, avec quand même, on est sur une performance 10 ans qui est autour de 10%, 10,5%, mais le capital investissement reste la reine en termes de performance des classes d'actifs avec 13,3% de TRI moyen sur ces 10 dernières années. Donc, si on prend le temps long, si on prend toutes les crises, malgré tout, le private equity s'en sort bien. Il s'en sort très bien, suffisamment en tout cas, pour distribuer, on n'a pas pu en aborder tout à l'heure, mais sur ces 25 dernières années, 1000 milliards quand même d'euros aux gérants des fonds d'investissement.
1000 milliards de dollars, non ?
De dollars, pardon, excusez-moi, 1000 milliards de dollars. Mais bon, quand même 1000 milliards.
Je reformule. En gros, le private equity a distribué un pactole de 1000 milliards aux gérants du private equity.
Ouais, mais alors il a distribué comment, hein ? On ne se parle même pas des frais, on se parle de ce qu'on appelle le carried interest. Le carried interest, c'est quoi ? C'est un pourcentage qui est prélevé sur la plus-value réalisée, la plus-value nette réalisée sur les investissements. C'est l'idée du carried interest, c'est d'aligner le gérant qui va à la fois faire un gros travail. Et nous, chez Tudigo, on fait pas juste un travail finalement d'acheter et de vendre et de choisir des entreprises. Il y a ce travail-là, il y a un travail de négociation, mais ensuite il y a tout un travail de suivi et de gestion du portefeuille. Et qu'est-ce que ça veut dire en private equity qui est vraiment, on se parle vraiment d'investissement, c'est-à-dire qu'on investit mais on s'investit. Chez Tudigo, on accompagne les entreprises, on met en place, en plus de les suivre, on met en place des moyens, on les met en relation avec des gens, des experts qui peuvent aider ces entreprises dans les phases compliquées et les aider également dans la croissance. Et c'est ça que font les gérants et c'est comme ça qu'ils génèrent cette plus-value.
Donc l'alignement des intérêts, ça peut permettre de générer jusqu'à 1000 milliards de dollars. C'est ça qu'il faut retenir.
Voilà.
Bon, revenons à ces biais d'investissement qui peut-être viennent flouter la vision des investisseurs, des wannabe investisseurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ces biais, Alexandre ?
Le premier biais, Et là, je parle de vraiment de ces biais d'investissement. On les trouve toutes classes d'actifs. Hein. Et vous allez vite comprendre pourquoi les Français sont les rois sur l'épargne et du livret A. Et voilà. Mais le premier, le plus gros, c'est l'aversion à la perte. Les investisseurs ont tendance toujours à surestimer les risques politiques, ce qui les amène à prendre des décisions qui sont défensives. Mmh. Et donc à chercher soit le repli, donc arrêter d'investir, soit des entreprises, des projets, des actions cotées qui sont stables, plutôt que celles qui vont potentiellement générer de la performance. Donc voilà, donc en cas si typiquement hein, si je prends en cas de victoire de la gauche, les investisseurs vont se dire qu'avec les hausses d'impôts, les hausses de taxes, c'est sûr que les entreprises vont pas réussir à s'en sortir. Voilà. Après, vous avez le biais de confirmation. Le biais
ça,
de confirmation.
On aime bien entendre les choses dont on est déjà par lesquelles
exactement.
On est déjà convaincu.
Voilà. Donc, on vient regarder. Donc, on a déjà certaines peurs, certaines croyances. Mm. Et puis, on regarde le programme. Et donc, en fait, on va relever dans les programmes politiques tout ce qui nous confirme que ça va être compliqué. Ça, c'est un des grands biais.
Il y a le biais de ce qu'on appelle de disponibilité. Qu'est-ce que c'est ?
Disponibilité, en fait, c'est disponibilité de l'information. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On a une couverture, une médiatisation de ces sujets. On fait un énorme focus sur les impacts économiques catastrophiques du résultat de ces élections. Même si, en réalité, est-ce que vraiment ils vont mettre en œuvre tous ces programmes qui sont, pour certains, hein, qui ne tiennent pas vraiment la route, hein, financièrement parlant, ce biais de disponibilité de l'information amène à craindre et à se dire que oui, ça va être une catastrophe.
On pourrait lister plein d'autres biais, mais il y a un biais qui est important pour conclure ce tour d'horizon, c'est l'effet de cadrage dont les médias sont un peu les spécialistes. C'est quoi l'effet de cadrage ?
Les médias sont les spécialistes pour... Qu'est-ce qui vend ? Qu'est-ce qui attire l'œil, hein, c'est la panique. C'est ce que le... C'est pas qu'on aime c'est qu'on aime être paniqué, mais bon, quand on regarde finalement le tout ce qui s'est passé pendant le Covid, on est non-stop en train de parler du Covid. Bon, on arrive quand même à occuper la chaîne comme ça. Bon, tout se focalise là-dessus et finalement la perception du monde est le reflet du temps passé à parler d'un seul et même sujet.
Alexandre, il faudra qu'on continue ce coaching peut-être au lendemain des élections. Ouais. Et vous nous aiderez à réallouer finalement notre argent et notre temps, puisqu'on investit, on s'investit vers des secteurs et peut-être des angles spécifiques. Mais avant de se quitter, peut-être basé sur les biais que vous nous avez listés, quels sont les conseils qu'on peut donner aux investisseurs et wannabe investisseurs qui nous écoutent pour contrer ces biais ?
Je vais vous donner les mêmes que ceux que j'aurais donnés avec le contexte de la guerre en Ukraine, avec la hausse des taux.
Ça tombe bien parce qu'on est dedans.
Voilà, qui se fait. C'est les mêmes. Concrètement, il faut aller. En ce moment, nous, ce qu'on fait, hein, c'est qu'on va vers des entreprises qui sont plus solides, qui sont plus matures. On va vers des entreprises, par exemple, qui font du capital développement, qui ont des actifs derrière. On a en ce moment un vignoble en Bourgogne avec des terres agricoles, en plus de l'exploitation, des fonds de commerce, des actifs immobiliers. Et de la rentabilité. Et puis, le dernier, on doit aller vers des entreprises qui ont la capacité de tenir dans ces périodes d'incertitude, parce que ces périodes d'incertitude affectent les investisseurs, créent de l'attentisme, et donc l'investisseur qui prend plus de temps, ça veut dire que l'entreprise doit aussi avoir plus de temps. Donc regardez des entreprises qui ont de la trésorerie et qui ont ce qu'on appelle du runway, c'est-à-dire un maximum de mois de trésorerie devant elles.
Voilà. Et pensez le temps long, finalement.
Pensez toujours le temps long. On investit, Warren Buffett qui disait toujours, ne pensez pas 5 minutes à investir dans une entreprise que vous ne seriez pas prêt à garder 10 ans.
Bon, j'espère que ça vous inspirera, chers auditeurs, auditrices. On vous aide à naviguer ces temps d'incertitude, à savoir comment investir, ou en tout cas réfléchir à investir, parce qu'il faut continuer. Les entreprises, elles ont besoin d'argent. Mm-hmm. Et vous avez besoin de faire travailler votre argent aussi, et de participer à l'économie réelle. C'est l'intérêt du private equity, entre autres. Merci beaucoup, Alexandre Leng. À retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes. Du coup, la semaine prochaine, on réfléchira aux entreprises à risque, en fonction du résultat des élections. Ça vous va ?
Ça marche.